Radio, l'émission sur la Loire et les rivières de Haute-Loire. SOS Loire Vivante vous informe pour vous permettre de participer activement à la consultation citoyenne à laquelle vous serez invité en 2008. Nos rivières, ça nous regarde, ça vous regarde.
Qui détermine le prix de l'eau? Il y a d'abord des facteurs géographiques et ensuite des facteurs techniques. Parmi les facteurs géographiques, la nature de la ressource est très importante. Cela comprend la qualité et l'accès de la ressource, c'est-à-dire si les eaux sont de surface ou de nappe. Il y a également l'éloignement de la ressource et l'habitat dispersé qui détermine la taille de la canalisation à mettre en place. Enfin, parmi les facteurs techniques, il y a les services liés à l'eau, le transport et la transformation. Le prélèvement de la ressource, la production de l'eau potable, l'acheminement de la ressource et la collecte des eaux usées, puis le traitement et le rejet à la rivière font partie également des facteurs techniques. Monsieur Ferrer, vous êtes le directeur des services techniques du SAE, le syndicat des eaux, sur la zone du Puy-en-Velay. Pouvez-vous nous expliquer comment se composent les dépenses de notre facture d'eau?
Il y a plusieurs parties. Il y a l'abonnement qui permet de nous payer nos charges fixes, la facturation, la relève, toutes nos charges fixes. Après, on a le prix du mètre cube d'eau potable, qui se situe pour la première tranche à peu près à 59 centimes d'euros. Puis, on a le prix de l'assainissement, donc au mètre cube, qui se décompose en deux parties au SAE. La partie collecte qui revient au SAE, et la partie traitement, pour 90% de nos abonnés, qui est reversée à la Lyonnaise des Eaux, qui est notre fermier, qui gère la station d'épuration. Alors 90% parce que tout simplement, les autres qui sont sur des petites stations sont gérées par le SAE. Donc cette partie traitement revient au SAE. À cela s'ajoute la taxe de l'agence de l'eau, qui est la redevance pollution, qui n'est pas négligeable, puisque cette année, elle est de 50 centimes d'euros par mètre cube. Donc là, le SAE, comme les autres collectivités, on a uniquement un rôle de collecte de cette taxe, et on la reverse intégralement à l'agence de l'eau, qui est une mutuelle et qui après, elle, permet de subventionner les collectivités. Donc il faut savoir que sur nos 2,80 € et quelques, il y a 50 centimes qui partent directement à l'agence de l'eau.
Donc ça, c'est vraiment l'application du principe pollueur-payeur?
Oui, dans l'idée, oui. L'idée, c'est de collecter en fonction de la pollution, de faire une caisse commune et de redistribuer pour aider.
Ce sont les communes qui déterminent, outre la part dépendant de la consommation, une partie fixe qui peut être demandée aux consommateurs. Celle-ci sera désormais plafonnée conformément à la nouvelle loi sur l'eau, adoptée en décembre 2006. Alors pourquoi il existe une part fixe sur la facture d'eau qui réduit le montant qui est vraiment proportionnel à la consommation?
Cet abonnement, quand même, reflète les coûts fixes qu'a le syndicat, qui est de gestion des factures, de gestion des abonnés. Et quelle que soit sa consommation, on a des frais de facturation, des frais de relève et d'autres frais qui sont indépendants de la consommation. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on ait un abonnement qui nous permette de rétribuer ce travail. Sachant qu'il faut bien savoir qu'un budget de l'eau est indépendant des autres budgets, même si c'est une structure communale. C'est-à-dire que c'est la facture d'eau qui nous paye, c'est pas les impôts.
En 2006, 46% de la facture concerne l'eau potable, 37% les eaux usées et 17% les redevances et taxes versées aux agences de l'eau. Le coût de l'eau potable, c'est principalement pour l'amener jusque dans les foyers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on va chercher l'eau, comment on trouve l'eau et on l'amène jusqu'au foyer?
Oui, ça veut. On a la chance d'avoir uniquement des ressources profondes, donc des eaux de source de bonne qualité. Donc, ce qui fait que nous avons des puits qui nous permettent de capter cette ressource. On n'est pas obligé de faire des traitements complets de l'eau potable. on a uniquement de simples désinfections à base de chlore principalement, qui nous permettent donc de traiter cette eau pour garder une qualité tout au long de son parcours. Donc on fait ces désinfections juste après les captages. L'eau est acheminée par des conduites souvent en fonte, de gros diamètre. Dans cette partie, on parle d'adduction. Cette eau est acheminée sur des réservoirs de tête où elle est stockée pour permettre de distribuer à la population sur la journée. À partir de là, on a les réseaux de distribution d'eau potable et avec des réservoirs intermédiaires qui permettent encore d'avoir des capacités de stockage en cas de problème.
Il y a beaucoup de sources différentes.
On a une bonne dizaine. Chaque ressource est exploitée suite à un arrêté préfectoral. Il y a eu une étude d'un hydrogéologue qui a étudié donc la géologie, la qualité de l'eau, ce qui permet de déterminer des périmètres de protection. Donc avec un périmètre entre autres de protection immédiate qui doit être clôturé et acquis par la collectivité, ce qui veut dire que donc on connaît la qualité de l'eau. Qui plus est, c'est l'État qui fait le contrôle sanitaire de l'eau, hein, pour pas que les collectivités ou les gestionnaires soient jugés partis. Donc selon des arrêtés en fonction du type de ressources, en fonction de la population desservie, il y a un contrôle sanitaire qui est fait par la DAS.
Cyril Dehay, vous êtes le responsable au VVF France du programme Eau douce. Coût de l'eau potable, de l'assainissement et des redevances sont les composants du prix de l'eau. Pouvez-vous nous présenter une action de préservation de la ressource qui a un impact positif sur la ressource en eau ?
Le prix de l'eau est fonction effectivement de ces différentes entrées. Et ces entrées, elles sont plus ou moins importantes en termes d'investissement pour la commune si la qualité en amont est dégradée. Par exemple, je vais citer un programme auquel le WWF a participé avec beaucoup d'associations sur le bassin versant de la Loire, donc dans le cadre de Loire Nature. La ville de Clermont-Ferrand qui a travaillé avec le Conservatoire des espaces naturels Auvergne qui a travaillé sur les périmètres de protection des zones de captage, des puits de captage de la ville de Clermont-Ferrand. Il y en a 70 au total. Donc ils ont leur puits de captage qui sert en fait à alimenter la ville de Clermont-Ferrand en eau potable avec une étape intermédiaire, donc c'est éventuellement un peu de traitement. Autour de ces puits de captage, ils ont défini des périmètres de protection. Ce sont quoi ? Ce sont des zones en fait qui sont protégées de toute activité humaine et notamment d'activités agricoles qui peuvent avoir un impact conséquent, je dirais, sur la qualité de l'eau en termes de pollution diffuse comme les nitrates et les pesticides. Et à partir du moment où ils ont réussi à préserver en amont cette qualité, il y a un coût de traitement fatalement qui va être moindre au niveau de la station de traitement pour eau potable. Et donc ce coût étant moindre, en final, le consommateur, lui, va avoir, au niveau au moment où il va s'acquitter de sa facture et du mètre cube de l'eau qu'il va payer, il va avoir un coût qui est plus faible. Il y a une étude récente qui a été publiée qui indique que la ville de Clermont-Ferrand a le prix du mètre cube en France le plus faible. Ça tourne entre 1,90€ et 2€ du mètre cube. La moyenne nationale, elle est de 2,80€ du mètre cube. Et les communes, les agglomérations qui payent l'eau la plus chère en France, Il y a deux communes, il y a la ville de Dreux qui est à 2,41€ du mètre cube et la ville de Saint-Étienne qui doit être à 2,40€.
De manière générale, Cyril Dehay, comment réduire le prix de l'eau ?
C'est un travail de longue haleine si effectivement on doit travailler en amont. Ça veut dire qu'autour de la table, il faut mettre les utilisateurs de l'eau et ceux qui ont une activité qui porte atteinte à cette qualité et à la quantité de la ressource disponible. Les exploitants agricoles sont pour partie responsables de la situation aujourd'hui que l'on a en France sur le problème de la qualité de l'eau. Il faut pouvoir les mettre autour de la table pour trouver des solutions alternatives. Ils sont responsables, oui, par rapport à cette situation. Ceci étant, ils ne l'ont pas nécessairement voulu. C'est-à-dire que les décisions politiques qui ont été prises, bien souvent, ils les subissent. Et donc, je dirais, comme tout acteur économique, ils ont un objectif, un résultat économique à la fin du mois. On leur a imposé un modèle agricole qui, effectivement, si on se replonge un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, on avait un objectif de couvrir les besoins alimentaires d'une population qui était affamée. Donc on avait un objectif, effectivement, de remettre beaucoup dans les campagnes pour augmenter la productivité. Donc on a développé de la recherche pour augmenter la productivité. Donc l'idée d'augmentation de la productivité, c'était faire face aux ravageurs. Donc pour augmenter la productivité, on a également utilisé les engrais chimiques, azote et phosphate. Donc je dirais on est arrivé à un système et aujourd'hui les nouvelles générations, les étudiants qui sortent de BTS ou d'école d'ingénieurs n'ont rien connu d'autre que ce modèle-là. Travailler davantage à la protection de la ressource, ça veut dire quoi ? Ça veut dire conserver la capacité naturelle qu'ont les milieux aquatiques de jouer un certain nombre de rôles. Et parmi ces rôles, on a, je dirais, le rôle naturel que les zones humides, les cours d'eau ou le lit majeur d'un cours d'eau avec les forêts alluviales jouent un rôle naturel de filtration. Donc en période de crue, quand il y a la décrue, l'eau est filtrée naturellement au travers des différentes couches successives sédimentaires. Les végétaux qui sont sur les rives peuvent pomper pour s'alimenter, pour croître les excédents d'apport azoté et de phosphate, et donc filtrent naturellement cette eau. Et donc il n'y a pas besoin derrière d'une machinerie technique, de l'investissement lourd qui va se répercuter sur la facture si on laisse la fonctionnalité jouer. Et pour ça, il faut éviter de canaliser les rivières. Donc il faut laisser libre cours aux rivières pour qu'elles divaguent. C'est concrètement ce qui est fait dans le cadre de Loire Nature. C'est faire en sorte que la rivière, s'il y a une pleine d'inondation, puisse inonder et qu'on évite de construire dans ces zones-là pour après, sous prétexte effectivement que c'est en zone inondable, qu'on va mettre des digues.
Alors qu'est-ce que c'est Loire Nature ?
Alors Loire Nature, c'est un programme qui s'inscrit dans un plan plus large, qui est le plan Loire Grandeur Nature, et qui porte sur plusieurs volets. Il y a un volet prévention des risques par rapport aux inondations, il y a un volet biodiversité, et le volet biodiversité, c'est ce que l'on avait appelé Loire Nature.
Le plan Loire, il est mis en œuvre par qui ?
Donc l'État, les services de l'État et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour l'État, donc il y a l'établissement public Loire, et au niveau des régions, après il y a les DIREN. Et il y a la DIREN de bassin, Direction régionale de l'environnement. Et après, des acteurs locaux qui peuvent être des associations et puis des collectivités qui souhaitent s'engager pour gérer une portion de bassin versant ou travailler avec des acteurs locaux pour redonner un caractère un petit peu originel au cours d'eau et réinstaurer un peu de biodiversité, que ce soit de la biodiversité animale ou végétale.
Cette émission vous a été présentée par SOS Loire Vivante avec le soutien du Conseil Général de Haute-Loire et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci et à bientôt.